Radio Kapi. Oh,
Kapi. Pascal Massiri Kabissimo à la présentation de votre journal.
Les titres de l'actualité, les organisations de la société civile qui opèrent dans le secteur des ressources naturelles recommandent au président Félix Tshisekedi de mettre en place une commission mixte autour du partenariat entre la SAKIMA et Primera. Objectif affiché, examiner les revendications de ceux qui s'estiment lésés par ce partenariat. Le parti UNC de Vital Kamerhe, DIPRO de Constant Mutamba et Alternance Citoyenne d'Anzoulouni s'engage à respecter la volonté des Congolais dans le cadre d'un contrat social conclu à Kinshasa par le réseau Pona Congo, engagement pris à Kinshasa hier après la signature du document intitulé Congo Tolingi. Notre invité, c'est le chef de division de la santé du Kasaï Oriental, Dr Bonor Tshitekou, revient sur le bien fondé de la campagne de vaccination contre la rougeole dans la ville de Mbujimayi. Madame, messieurs, bonsoir. Avant d'aller plus loin, sachez que le président de l'UPC, Thomas Lubanga, et Yves Kawa, cadre du MLC, tous deux anciens seigneurs de guerre en Ituri et anciens détenus à la Cour pénale internationale, ont vu leur candidature à la députation nationale être invalidée. Un arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu à ce sujet le 12 septembre dans le cadre de l'examen du contentieux des candidatures. Rappelons que la loi électorale déclare inéligibles à titre définitif les personnes condamnées par une décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et de génocide. Économie à présent, partenariat entre la SAKIMA et Primera, les organisations de la société civile qui opèrent dans le secteur des ressources naturelles, recommandent au président Félix Tshisekedi Tshilombo d'ordonner la mise en place d'une commission mixte. Objectif affiché, examiner les revendications des entités administratives qui s'estiment lésées par ce partenariat. Ces ONG, dont l'ICOCO, ne touchent pas à mon cobalt et le SENADEP, affirment avoir reçu des plaintes des opérateurs miniers et de la population du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema dans ce sens. Des précisions avec le porte-parole de ces organisations de la société civile lors d'un point de presse tenu hier à Kinshasa, Henri Mouya s'est confié à Paul Matendo.
Les organisations et personnalités signataires formulent des recommandations suivantes. Au président de la République, garantir l'application par le gouvernement des décisions politiques qui profitent au pays et qui ne lèsent pas au tiers en règle avec la législation en la matière. Ordonner la mise en place d'une commission ad hoc avec implication de la société civile pour examiner au cas par cas les revendications des entités administratives et des entreprises s'estimant lésées par le partenariat SAKIMA lui-même. Au gouvernement, spécialement au ministère du portefeuille et des mines, veiller à l'application stricte du code minier, du règlement minier et d'autres dispositions légales et réglementaires en la matière. Publier le contrat SAKIMA Primera Metal, les 60 jours réglementaires étant accomplis, sinon procéder à la révision des clauses incohérentes à SAKIMA et ses partenaires, respecter les engagements pris avec tous les acteurs concernés et se conformer au code des règlements miniers.
Hier, vendredi après-midi, en marge de la rentrée parlementaire, Congo Enyanya a organisé une manifestation au Palais du Peuple ici à Kinshasa pour alerter les élus du peuple sur les dangers que représentent les 25 ans de monopole de fait accordé, selon elle, à l'entreprise arabe Primera Group RDC. Pour cette organisation, l'Assemblée nationale doit interpeller le gouvernement afin d'obtenir la révisitation du contrat entre la SAKIMA et Primera, qui, toujours d'après la même source, défavorise la RDC et les autres exploitants congolais de l'or du Sud Kivu. Le coordonnateur de Congo Enyanya invite donc l'Assemblée nationale à programmer en urgence la question orale avec débat du député national Alfred Maïcha, qui dénonce le caractère léonin de ce contrat signé entre SAKIMA et Primera Gold. Moïse Tshimoussa est au micro de Merveille Assani.
Nous attendons beaucoup de l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir l'issue significative sur cette question-là des monopoles et de l'exonération qu'on a attribuée à Primera à celle sans les autres. Parce que nous avons plusieurs sociétés qui sont dans le secteur, mais malheureusement, il n'y a que la société étrangère où on a trouvé qu'on pouvait attribuer les monopoles, l'exonération, parce qu'ils payent moins que les autres, alors que notre code minier interdit cela. En tout cas, notre préoccupation est qu'il puisse y avoir révisitation de ces contrats que le gouvernement, au travers Sakima, avait signé avec les Émirats arabes et avec leur société Primera Gold Metal. Parce que nous-mêmes et l'honorable Maïcha même a sorti au moins le minimum de 5 articles qui n'ont pas été vraiment favorables à notre souveraineté. Ça n'a pas été au bénéfice de la population. Ces 5 points, si on les élague et qu'on révisite les contrats, nous en tout cas, nous serons satisfaits.
Le 16 septembre, c'est la journée mondiale du nettoyage. Ici à Kinshasa, l'entreprise Kintoko du groupe Angel, avec la collaboration de l'ambassade des Pays-Bas, RDC, a organisé aujourd'hui le ramassage de bouteilles en plastique. Jérôme Sekana, le délégué général du groupe Angel, affirme que ce geste vient appuyer l'opération Kinbopeto, un programme de l'Hôtel des Villes. Le récit de Paul Matendo.
Une équipe composée du personnel de l'ambassade des Pays-Bas en RDC, de Kintoko, une usine spécialisée dans le recyclage des plastiques et du ministère de l'Environnement s'est déployée sur le boulevard du 30 juin pour ramasser les plastiques. Pour Jérôme Sekana, délégué général du groupe Angel, toutes les bouteilles ramassées seront recyclées par son entreprise.
Nous, au niveau de Kintoko, l'usine Kintoko, nous recyclons ces bouteilles. Donc il faut les ramasser, ça constitue également une source de revenus.
Angel Soumoura, ambassadrice des Pays-Bas, estime que ces gestes représentent un espoir pour l'avenir de la jeunesse congolaise.
Cette journée présente pour moi l'espoir de la jeunesse congolaise. Je pense que ce qu'on peut ramasser maintenant, on contribue déjà beaucoup pour l'avenir.
Hervé Moukouette, du ministère de l'Environnement, l'un des ramasseurs, appelle la population congolaise à prendre conscience du danger que représentent ces déchets.
Les plastiques jouent un rôle aussi néfaste par rapport à l'environnement et on doit les gérer comme il se doit, pas les jeter partout.
Cette opération s'est déroulée du pont d'Ag Armadjok dans la commune de Ngaliema à la gare centrale dans la commune de la Gombe.
Et puis, l'incinération des déchets plastiques détruit la couche d'ozone et menace la santé de la communauté. C'est ce que révèle en tout cas l'ONG appuyée aux initiatives communautaires de la conservation de l'environnement et de développement durable à l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. À cette occasion, la synergie des luttes contre la pollution du réseau Africa Cold Network demande l'application des dispositions légales sur la gestion des déchets plastiques. Des précisions avec le directeur exécutif national de l'AICD, Faustin Nyeboné, au micro de Denise Lokesso.
Nous avions proposé d'abord à la mairie d'appliquer toutes les dispositions qui interdit la commercialisation, l'usage et même l'importation des emballages plastiques. Alors, pour que cette recommandation soit applicable, il faut faire la promotion des emballages de substitution, c'est-à-dire les emballages biodégradables. Alors, il faut même exonérer les matériels qui entrent dans la fabrication des emballages biodégradables. Et là, ça sera maintenant à la portée des communautés et à moins cher. Et au niveau de la FEC, nous avions recommandé que la FEC puisse quand même sensibiliser les commerçants. Parce que ce sont ces commerçants qui continuent à faire le commerce des emballages plastiques. Et à la population, nous avions recommandé d'avoir des comportements responsables. Il faut vraiment, vraiment éviter d'incinérer les déchets plastiques, ne pas les utiliser comme combustibles. Et si on utilise ça, effectivement, vraiment, on va protéger la couche d'ozone qui nous protège aussi et nous allons nous épargner des maladies inutiles.
Politique à présent, les partis UNC de Vital Kamerhe, DIPRO de Constant Mutamba et Alternance citoyenne de Floribert Anzuluni s'engagent à respecter la volonté des Congolais dans le cadre d'un contrat social conclu par le réseau Pona Congo. Engagement pris hier vendredi à Kinshasa après la signature du document intitulé Congo Tolingi. Entendez le Congo que nous voulons, qui, selon le directeur du CEPAS, concilie la gouvernance politique aux valeurs morales. Le coordonnateur de ce réseau citoyen affirme que ce contrat social est une démonstration que les politiques s'engagent à répondre efficacement aux préoccupations des Congolais. Reportage de Jean-Désiré Kanyama, rendu par Fulbert Balolagué.
Pour le directeur du CEPAS, il y a un certain nombre d'engagements à prendre si les Congolais veulent que le pays se développe. Père Alain Nzadi Anzadi.
Concilier politique et valeurs morales. Une nouvelle manière de faire la politique au Congo qui met la nation à l'avant, qui met le peuple au devant de toutes les ambitions politiques.
Qu'est-ce qui est demandé effectivement aux politiciens congolais et que contient ce contrat social? Réponse de Georges Héritier Opombo, membre de Pona Congo.
Nous passons à la culture de la responsabilité des acteurs politiques vis-à-vis du peuple. Il y a dans le contrat social des priorités de la population. Il y a des questions de bonne gouvernance. Il y a la question du leadership politique responsable, des défis qu'il faut relever. Il y a la question de la sécurité. Il y a la question de la corruption.
Mais alors, pourquoi les politiques ont ratifié ce contrat? Maître Olivier Kabuya est secrétaire exécutif national du Parti Alternative Citoyenne.
Nous sommes un parti jeune, issu de mouvements citoyens, capables de récupérer ces désirata de la population et les porter haut au sein des essences nationales de notre pays.
Après la récolte des préoccupations des Congolais, il était question qu'à la veille des élections, qu'un contrat social soit présenté à tous les candidats.
L'actualité, c'est aussi la fin hier à Lubumbashi de la 12e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie. Pendant 5 jours en effet, les deux délégations ont passé en revue la situation sécuritaire entre les deux États. À l'issue des travaux de Lubumbashi, ils ont pris des résolutions pour affermir les relations et renforcer la sécurité le long de la frontière commune. Les deux parties ont été représentées respectivement pour la RDC par le vice-président Premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et pour la Zambie, par le ministre de la Défense nationale, Ambroise Lufuma. Un reportage de Jean Gandou, rendu ici par Jacques-Yves Moulima.
Ces travaux ont commencé depuis le 11 septembre dernier avec les experts de ces deux pays avant que les deux ministres et chefs de délégation ne viennent endosser les résolutions par la signature des documents. La RDC a à cette occasion félicité la Zambie pour son accession à la présidence de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la communauté de développement de l'Afrique australe et a sollicité du président zambien d'obtenir de la SADC la mise en œuvre de la résolution relative au déploiement de la force de la SADC en RDC. Pour sa part, la Zambie a assuré la RDC de son engagement à soutenir les efforts déployés par la SADC pour trouver une solution durable aux problèmes de sécurité rencontrés dans la région et dans la partie orientale de la RDC. La Zambie a aussi félicité la RDC pour son engagement à promouvoir la paix dans la région des Grands Lacs et a salué les efforts fournis pour réduire les embouteillages et assurer la fluidité du flux des marchandises au poste frontalier de Kasumbalesa. La commission a aussi salué les initiatives prises par ces deux États pour améliorer leurs économies, entre autres pour la création notamment des zones économiques. Elle a aussi réaffirmé sa volonté de voir les deux nations poursuivre la coopération entre elles pour améliorer le bien-être de leurs populations respectives.
Notez que quelques résolutions prises lors de la 11e session de la Grande Commission permanente mixte souffrent actuellement de non-exécution. L'appel a été lancé au ministre de la Défense des deux pays de veiller pour que les résolutions enveilleuses et celles qui viennent d'être prises soient mises en œuvre. La 13e session de cette commission mixte aura lieu l'année prochaine en Zambie à la date qui sera déterminée par voie diplomatique. On enchaîne avec le Nord Kivu où le secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni a désormais un nouveau chef depuis jeudi dernier. Il s'agit de Kasereka Mapati. La population de la zone attend de lui le renforcement de la sécurité en vue du développement de cette entité en proie à l'insécurité des groupes armés. À Beni, la correspondance de Marc Marofimbo.
Après 13 années passées à la tête du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni, Bozi Sindiwako vient de céder son fauteuil à Japhet Kasereka. La cérémonie officielle de remise et reprise a eu lieu jeudi dernier à Mutwanga, chef-lieu de secteur. C'était en présence de l'administrateur militaire du territoire ainsi que des représentants de la population, des services étatiques et de sécurité. Selon la société civile locale, la principale attente de la population est de voir le nouveau chef de secteur œuvrer pour le retour de la paix en vue du développement de la région. Mele Kimoulala est son coordonnateur.
Nous encourageons les nouveaux chefs de secteur dans ces actions. d'action qui vont aller dans le sens d'accompagner les processus de paix, de nous avancer vers le développement.
La jeunesse, pour sa part, plaide pour les projets de réhabilitation des routes de dessertes agricoles. C'est ce qu'explique Fidel Mutupeke de la jeunesse de Kasindi.
Comme Axe Kasindi, Masambo, Lume, Mutuanga, Mwenda, Kikingi, Kikura, Kasindi, Kalemi, Muramba, Kizumbura, des axes qu'il fallait que notre chef de secteur lui voir comment il peut amener sa lutte là-bas.
Une autre attente est celle des associations féminines de la place qui attendent l'accompagnement du nouveau chef dans leurs activités génératrices de revenus. En réponse à ces doléances, Javed Kassere Kamupati compte sur la collaboration de la population pour la réalisation de toutes ces attentes. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Et puis en Ituri, les conflits armés qui endeuillent le territoire de Djougou depuis plusieurs années ont un impact négatif sur la promotion de la culture. Des groupes ethniques qui se fréquentaient à l'époque ne les font plus à cause de, notamment de l'insécurité. Le révérend Léopold Pilot, notable balai, parlait par exemple des danses traditionnelles qui étaient organisées quotidiennement à l'époque entre les Lendou et les Ema. Ces deux peuples se rendaient visite à l'occasion des tristes événements ou autres cérémonies culturelles. Il plaide pour le rétablissement de la paix. Des propos recueillis par Jean-Claude Lokidile.
Parce qu'à dire vrai, avec perte de cette manière où on se communiquait dans l'amour, dans l'harmonie, la sincérité, la franchise a perdu son sens. Donc ça tue notre culture. Et c'est pour cette raison que nous avons toujours voulu demander à nos compatriotes, à nos frères et sœurs de Djougou, revenons vraiment dans la manière que nos ancêtres nous ont enseigné de vivre, dans la fragilité, dans l'amour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait qu'on fasse la même chose? Et vous verrez que quand on organisait par exemple un Libé ou un Zi, c'est tout le monde, toute tribu confondue qui y venait. L'autre venait seulement à spectacle pour voir comment les choses évoluent. Et donc, si on pouvait revenir à cela, je crois que certaines mentalités devaient être changées. Parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas l'autre comme un ennemi. C'était faire un problème à qui nous devons apporter notre secours.
Autre nouvelle en plus bref, nous l'avons appris ce samedi matin. 18 personnes ont été tuées lors des affrontements survenus entre les FRDC et des miliciens Mobondo mardi dernier dans le secteur de Lulalumene, territoire de Kimvula au Congo central. Selon Merlin Zeye Moko, un acteur de développement qui annonce la nouvelle à Radio Okapi, cette situation fait suite au faible effectif des militaires dans la zone. La nouvelle est confirmée par l'administrateur du territoire de Kimvula.
Actualité internationale.
Au Maroc, le bilan du séisme Aouaz, qui a coûté la vie à 3000 personnes, se poursuit et y a été dénombré 5000 blessés graves. La ville de Marrakech, elle aussi, a été touchée dans une moindre mesure avec 18 morts et de nombreuses habitations qui ont été détruites principalement dans la Médina et dans le Mela, l'ancien quartier juif qui compte actuellement de nombreuses maisons traditionnelles qui ont été détruites à Mela, justement. Des dizaines de familles continuent de dormir dehors dans la rue alors que les autorités marocaines leur proposent de les abriter dans un stade qui a été transformé en lieu de deuil.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef des divisions provinciales de la santé du Kasaï oriental. Docteur Bonheur Tchitekou revient sur les biens fondés de la campagne de vaccination contre la rougeole dans la ville de Mbujimaï. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, docteur Bonheur Tchitekou. La province du Kasaï oriental est secouée par l'épidémie de rougeole. Quelle est la situation épidémiologique de la rougeole dans la province du Kasaï oriental?
Merci beaucoup, madame, pour votre question. La province est en épidémie de rougeole depuis l'année 2022, au mois de février. Pour l'année 2022, nous avons notifié près de 12 090 cas, dont 172 décès. Et pour cette année, depuis la première semaine épidémiologique jusqu'à la 33e, nous avons notifié 1020 cas, dont 17 décès.
Combien d'enfants sont attendus à cette opération?
Oui, pour cette campagne, nous nous attendons à vacciner près de 985 5678 enfants qui sont âgés de 6 à 59 mois. Étant donné que c'est la tranche d'âge qui est plus frappée par l'épidémie de rougeole. La campagne commence dès le samedi. La division compte 19 zones de santé. Donc cette campagne va se dérouler dans toutes les 19 zones de santé de notre division.
La rougeole est une maladie contagieuse. Quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour atteindre tous ces enfants concernés?
Oui, la stratégie qui va être mise en place est la stratégie fixe, étant donné que cette campagne est plus injectable. Donc, les équipes ne sauront pas se déplacer porte à porte comme c'est le cas avec la vaccination contre la poliomyélite. Ici, des équipes vont s'installer au niveau de chaque site, donc au niveau de nos centres de santé et aussi au niveau des endroits qui sont déjà bien préparés pour recevoir tous ces enfants. Donc, lorsque les sites sont installés, il y a les mobilisateurs sociaux qui va descendre dans la communauté, sensibiliser les parents et gardiens des enfants, les orienter vers les sites de vaccination pour que chaque enfant puisse obtenir son vaccin. À côté de ça, il y a aussi la récupération des enfants perdus de vie en PEV de routine. Là, il y aura aussi des sites beaucoup plus au niveau de chaque centre de santé. Un enfant qui est en conflit avec son calendrier vaccinal, lorsqu'il est déniché ou détecté, et aussi l'enfant qui prend ses vaccins de routine, puisque pendant une semaine, il y aura aussi les activités de routine pour ces enfants qui sont déjà sous calendrier vaccinal. On va les orienter vers les sites de vaccination en routine pour qu'ils ne puissent pas passer à côté de leur calendrier vaccinal.
La rougeole est une maladie contagieuse. Vous ne craignez pas que ces enfants puissent être contaminés parce que les enfants malades viendront et ceux qui ne sont pas malades aussi viendront pour recevoir le vaccin. Comment ça va se passer?
Merci beaucoup. Les choses sont bien organisées. Donc, au niveau de chaque site, il y a une organisation. Donc, on va avoir, je crois, près de 5 agents au niveau des sites. Il y a 2 qui vont vacciner, 1 qui va apprêter les vaccins, 1 qui va être à la porte d'entrée. Donc, ce qui veut dire que les enfants qui vont être amenés, les parents seront mis en ligne en respectant une certaine distanciation, de sorte que chaque parent ou gardienne d'enfant puisse entrer avec son enfant. Et lorsque l'enfant reçoit son vaccin, il y a une porte de sortie. Il ne va pas rentrer par la porte par laquelle il est entré, mais on l'oriente vers la porte de sortie, de sorte que la contamination puisse être réduite pour que l'enfant qui vient recevoir son vaccin en bonne santé qu'il ne puisse pas y sortir avec la maladie.
Il y a un mois, monsieur le CD, vous avez dit qu'il n'y avait pas de médicaments pour soigner les enfants au niveau des centres de traitement. Il manquait d'autres équipements médicaux. Est-ce que vous êtes déjà doté de tout ce qui manquait pour prendre soin des enfants malades?
C'est parmi les difficultés. Nous avions entré en contact avec l'incident manager au niveau national. C'est lui qui gère l'épidémie. Et les besoins sont déjà exprimés. Mais Dieu merci, lorsque nous avons fouillé dans les kits qui étaient disponibles à la coordination PEV, on s'est rendu compte qu'en dehors des kits MAPI, on a trouvé aussi quelques cartons qui détenaient les médicaments pour la prise en charge des rougeolés. Le bureau appuyé déjà sur les dossiers. On est en train d'élaborer les plans de distribution ensemble avec le bureau InfoSan pour que d'ici demain, tous ces médicaments puissent être rendus disponibles dans les zones de santé qui ont plus notifié des cas. Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef des divisions de la santé de la province du Kasaï-Oriental, Dr Bonheur Tshitekou, parlait du bien fondé de la campagne de vaccination contre la rougeole dans la ville de Mbujimayi. Il s'entretenait avec Esther Ndalafina. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci de l'avoir écouté.